Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 20 mars. 20 mars qui est aussi la journée internationale de la francophonie, l'occasion de mettre le français à l'honneur. Des bourdes, j'en ai fait, ou des bourdes, j'en ai faites. Des puissants zénissements de ces chevaux ou les puissants tennissements de ces chevaux. Comment se réconcilier avec l'orthographe et la grammaire? Bonjour Julien Soulier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes auteur, vous participez au projet Voltaire, service en ligne de formation à l'orthographe. Alors on va commencer par là. Le cliché est un peu le suivant. Plus qu'un cliché, un sentiment diffus. Les jeunes, et je m'inclus dedans, sont de moins en moins forts en orthographe. Déjà, est-ce que ce constat est juste, Julien Soulier?
Bon, je voudrais pas jouer les vieux grincheux, mais c'est vrai quand même que ils ont de plus en plus de mal avec l'orthographe et avec la grammaire. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Selon une étude récente, un DRH sur deux considère quand même que l'orthographe est déterminante dans le processus de recrutement des entreprises. C'est donc que, quoi qu'on en dise, la maîtrise de l'orthographe reste, en 2019, primordiale, au moment en tout cas de postuler un emploi.
Oui, parce qu'il y a il reste une forte pression sociale sur l'orthographe, sur la façon de s'exprimer, et les recruteurs, quand ils reçoivent un CV ou une lettre de motivation, eh bien, dès la première ou la deuxième faute, ça part à la poubelle.
Ça part à la poubelle direct,
parce qu'en fait, ils en déduisent, alors l'orthographe c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, et ils en déduisent à tort ou à raison que la personne ne sera pas forcément fiable, qu'elle sera pas sérieuse, qu'elle n'est pas respectueuse des règles, etc. Donc il y a l'orthographe et puis il y a tout ce que ça cache derrière.
Alors là où on voit qu'on a peut-être changé d'époque, c'est que moi quand je reçois une lettre de motivation, ça m'arrive parfois, ce qui est fou, c'est que je saute au plafond et je m'enthousiasme quand il n'y a pas de faute d'orthographe.
Oui.
Parce que c'est devenu rare.
Oui, c'est devenu rare.
Je pense qu'à une époque, toutes les lettres de motivation, il n'y avait aucune faute d'orthographe.
C'est vrai, malgré les correcteurs orthographiques. Pourtant, on pourrait se dire avec les correcteurs orthographiques, mais non, les correcteurs orthographiques ne sont pas la panacée, et non pas la panacée universelle, mais la panacée. Et donc, il faut quand même, effectivement, maîtriser un minimum de règles pour pouvoir être compris, s'exprimer correctement, communiquer correctement. Finalement, c'est une espèce de bonne manière, en fait, l'orthographe et la grammaire. C'est un respect des bonnes manières.
C'est un respect de
l'autre. On s'adresse à quelqu'un. Et bien, comme on lui dit bonjour, et bien là, de même, il faut respecter certaines règles pour que la communication soit à peu près correcte.
Est-ce que, vous en parliez à l'instant, le correcteur automatique n'est pas à l'orthographe ce que le GPS est à la pensée humaine? C'est-à-dire qu'on est toujours assisté, donc on réfléchit plus à ce qu'on écrit, et donc du coup on s'entraîne moins en orthographe.
C'est vrai qu'il y a des réflexes qui se perdent, il y a une méthodologie aussi un petit peu cérébrale, une espèce de rigueur qui se perd. Moi je dis aussi parfois que c'est un peu ce que la calculette est aux mathématiques. Maintenant on se sert souvent la calculette pour faire 3 fois 2, du moins les élèves, et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça dans le correcteur automatique. Il y a une espèce de paresse un petit peu intellectuelle et cérébrale qui se crée.
Et puis parfois il y a des petites surprises. Moi une fois j'ai voulu dire c'est bon, j'ai booké la nounou tout l'après-midi, c'est véridique, hein. Il a mis c'est bon, j'ai violé la nounou tout l'après-midi.
Ah oui.
Depuis jour-là j'ai enlevé le correcteur orthographique. Eva Rock.
L'Académie française, Julien Soulier, consent à féminiser les noms des métiers. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, enfin quand même, ça fait 25-30 ans que ça traîne cette histoire-là.
Mais pourtant il y a des professions, vous le dites dans votre livre Par humour du français, il y a des professions qui sont mal disposées pour la féminisation. Médecin, médecine, ça marcherait
pas. Oui, c'est vrai que ça marche assez mal, mais bon, après tout, pourquoi pas? Je veux dire, c'est ce que j'explique dans le livre, quand on dit un financier, on se pose pas la question de savoir si c'est le banquier ou la petite viennoiserie qu'on trouve chez le boulanger. Donc c'est vrai que pourquoi pas la médecine ou la médecin, après tout, quel est le problème? Je me souviens, moi, dans un salon du livre, une petite dame d'un certain âge qui était venue me voir en me disant « Vous en pensez quoi, vous, de écrivain, écrivaine? C'est moche, hein ?» Je dis « Bah écoutez, écrivaine, c'est pas plus moche que riveraine, foraine ou châtelaine.
Oui. » C'est vrai, il faut juste s'y habituer, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de ces mots, ils ne sont pas encore entrés
exactement,
dans
parfois on dit autrice aussi, mais
oui,
autrice, on dit bien animateur, animatrice.
Mais voilà, animatrice.
Qu'est-ce
donc
que c'est différent? Et puis c'est un mot qui date du 14e et que Jean-Jacques Rousseau employait déjà. Donc plusieurs siècles après, il serait peut-être temps quand même d'accepter un petit peu tout ça.
Quelles sont les fautes courantes qui vous agacent le plus?
Alors moi, les fautes courantes qui m'agacent le plus, à l'écrit, c'est la confusion des formes en « et ». Alors ça, c'est vraiment le tonneau des Danaïdes chez les élèves, hein, c'est-à-dire ER, EZ, AIS, AIT. Alors là, c'est une espèce de grand loto.
Alors,
faudrait faire un mission patrimoine pour les formes en « et » parce que c'est assez terrible.
Est-ce que vous avez des petits moyens mémotechniques pour nos auditeurs pour éviter les fautes les plus courantes?
Alors pour éviter les fautes les plus courantes, j'allais dire, mais je suis pas sûr que ce soit un vrai moyen mnémotechnique, l'idéal, ce serait d'avoir fait un peu de grec et de latin, parce que ça vous aide, mais bon, je suis pas sûr que ça en ait pas traumatisé quelques-uns pendant des années,
donc
on va laisser ça de côté. Non, ce qu'il faut, ce qui marche souvent, c'est le coup de la substitution.
Allons-y.
Par exemple, je ne veux pas la rentrée. Ça peut être la rentrée scolaire. ou je ne veux pas la rentrer, la voiture dans le garage. Donc là, en plus, il y a une différence entre quand même la terminaison. Donc là, il suffit de remplacer par un verbe du troisième groupe. Je ne veux pas la faire, et puis hop, ER, et hop, emballer, c'est pesé.
Ah oui, d'accord, par un verbe du troisième groupe. Bah, d'accord, oui. Je le note. Vous êtes également, Eva le disait, l'auteur d'un livre « Bailler aux corneilles et 99 autres expressions qu'on n'a jamais vraiment comprises aux éditions First », où on apprend par exemple que l'expression « ne pas être dans son assiette » n'a aucun lien avec la gastronomie française.
Eh ben oui, c'est vrai qu'on est en France, donc forcément on pense tout de suite à la nourriture hein, et au bien manger. Eh ben non, assiette en fait, ça, c'est, alors c'est, étymologiquement c'est le même mot, mais il a un sens différent. En fait, l'assiette c'est le fait d'être assis, donc d'être bien en équilibre.
Ah,
on parle d'ailleurs
d'accord.
d'assiette encore pour les cavaliers sur leur cheval, hein,
oui,
qu'ils ont une bonne assiette.
Ou
on parle aussi de l'assiette de l'impôt, pour parler de choses un peu désagréables sitôt. Bon. Donc effectivement, ne pas être dans son assiette, c'est ne pas être dans son bon équilibre. Voilà. Et puis on l'a associé effectivement à la nourriture, parce qu'en France, tout se termine par un repas.
Autre mystère que j'aimerais élucider avec vous, Julien Soulier, pour finir. À la queue le leu. Est-ce que ça serait une histoire de loup ?
Et non, n'en déplaise à Bézup et à son âme. Je connais mes grands classiques quand même aussi.
Je vois que monsieur est connaisseur dans tous les domaines.
Non, en fait, il s'agit. Alors, c'est vrai qu'on a le, donc, qui est lui-même un petit peu à la queue le. Donc, on se dit, bah, ce le. Et en fait, le, L-E-U, c'est le vieux mot en ancien français qui voulait dire le loup. Et donc, à la queue le. Et le premier le, c'était l'article. Donc, c'était à la queue le loup, qui voulait dire à la queue du loup. Donc, en fait, c'est parce que ces animaux ont la réputation de se suivre les uns les autres. Donc, c'est devenu à la queue le ensuite,
voilà,
quand
Eva.
Le mot le n'a plus été compris.
Et voilà, Eva, vous vous coucherez moins bête ce soir, et moi aussi d'ailleurs,
parce que je ne
le savais pas du
jours,
tout.
Hein,
oui, tous les jours une expression.
Oui.
Vous venez, on va faire une chronique. Merci beaucoup,
merci
Julien
Soulier.
Je rappelle le titre de votre livre, Par humour du français aux éditions La Librairie Vuibert. Merci beaucoup. Europe.